Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde
dans RTL Soir.
On refait le monde ce soir à 19h31 sur RTL avec Gérard Miller, Roland Quayrol, Yvan Youfol et Laurence Parisot. Le rapprochement Orange Bouygues Télécom sera dans l'intérêt du consommateur et dans l'intérêt du pays. Vous avez entendu tout à l'heure en exclusivité sur RTL Stéphane Richard, le patron d'Orange, donner quelques détails concernant ces négociations. Si les deux groupes fusionnent, ils posséderont 60% du marché mobile. L'UFC Que Choisir réclame déjà des mesures pour maintenir la concurrence. Stéphane Richard assure qu'il n'y aura pas de casse sociale, que les prix n'augmenteront pas. Vous dites oui à ce mariage sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Pas forcément une bonne nouvelle pour nos futures factures, tweet Xavier, c'est ce qui revient le plus souvent dans les commentaires. Je me souviens plus qui a dit 4 acteurs sur un marché, concurrence favorisée, 3 acteurs sur un marché, entente favorisée, alors no comment, renchérit Scano. SDSL leur répond que la France est championne d'Europe des prix télécom bas et depuis très longtemps, ces marges très réduites pour les opérateurs ne sont pas tenables indéfiniment, il est logique que le marché se concentre. Mais d'autres comme Charles redoutent surtout ce que ça va donner niveau perte d'emploi, les boutiques en doublons, etc. Pas un seul licenciement n'aura lieu d'ici le 8 mai 2017. Trop sensible, lui répond Maurice. Après, Mimi regrette que l'ouverture à la concurrence d'un secteur public se transforme petit à petit en une fusion monopolistique privée. D'autres encore soupçonnent l'État actionnaire d'Orange de vouloir augmenter son pouvoir d'influence sur l'information en approchant Bouygues, donc TF1. Une fois l'information maîtrisée, il est plus facile de garder le pouvoir avec les simples citoyens. Nico enfin raille un accord de confidentialité annoncé dans un communiqué de presse. Je pense qu'on a gagné notre lol du mois, écrit-il, c'est une obligation légale dès lors que ça implique des entités cotées, lui rappelle Alec pour finir.
Que vous connaissez bien tout ça, ces dossiers-là, Laurence Parisot, vous saluez ce rapprochement potentiel, hein, puisque tout à l'heure Stéphane Richard nous disait que rien n'est fait et qu'il y a plein d'obstacles et qu'ils allaient peut-être trébucher, mais en tout cas, il confirme que ça y est, les négociations ont cours.
Oui, j'ai l'impression que c'est bien parti. Alors, je pense que c'était indispensable. Tout économiste qui regardait les chiffres de ces différentes entreprises pouvait dire que à terme, il n'était pas tenable que sur le seul territoire national, il y ait 4 opérateurs en concurrence. Xavier Niel, avec l'arrivée de Free, a bousculé beaucoup de choses et a provoqué cette baisse des prix dont vous parliez. Mais en même temps, ces faibles marges dont l'un des internautes parlait risque à terme d'empêcher les investissements nécessaires pour que ces entreprises restent dans le coup et un niveau d'infrastructure à la hauteur de notre pays. Or, les télécommunications sont les infrastructures du 21e siècle. Si on veut être pointu en France et permettre le développement de toutes les entreprises, notamment les start-up liées à l'Internet des objets, par exemple, et aux télécommunications d'une manière générale, on a besoin d'un groupe puissant.
Et donc la décision de Nicolas Sarkozy d'avoir offert une 4e licence téléphonique, en l'occurrence à Xavier Niel, ça a fait du bien aux consommateurs, pas forcément à l'économie.
En tout cas, moi je me souviens qu'à l'époque, j'avais demandé à Bercy, notamment, si une étude d'impact préalable avait été faite. Et j'avais été stupéfaite de constater que rien de sérieux n'avait été estimé. Mm-hmm. Et d'ailleurs, Martin Bouygues en avait conclu que vraiment tout ceci relevait de la politique et non pas de l'économie.
Moi, je pense qu'il faudrait d'ailleurs un seul grand opérateur de téléphonie, un seul grand constructeur automobile, une seule grande banque. Ça a été tenté dans certains pays qui n'avaient pas spécialement, Laurence Parisot, votre sympathie. Moi, je trouve formidable, je ne sais pas s'il en faut 3, 4 ou 10, je suis incapable de l'exprimer, mais je trouve formidable que dans ce monde libéral, chaque fois que ça se concentre, c'est-à-dire quand même chaque fois que la concurrence en prend un coup, on nous explique que c'est indispensable. Moi, je croyais que le libéralisme se caractérisait par la libre concurrence. Je vois ça au niveau des grands magasins, je vois ça au niveau de tous les grands secteurs. On nous explique que pour être vraiment efficace, faut être très peu.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le monde économique, vous ne pouvez pas le regarder au niveau de notre seul pays. Et si nous voulons un acteur télécom costaud, européen, capable de rivaliser avec les grands Américains ou les grands Chinois, parce que la vraie arrivée, c'est celle de Huawei en Europe, nous devons permettre à un grand d'agir. D'accord.
Alors explique-moi pourquoi il a fallu que Niel et Free arrivent pour que les prix baissent. Pourquoi est-ce qu'il a fallu un concurrent de plus ?
Mais il y a dans l'économie il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que rien n'est jamais statique. Il y a des phases, qui provoquent le mouvement. Il fallait une phase de grande concurrence. Niel, avec une audace incroyable et un talent qu'il faut vraiment saluer, a permis cette concurrence. Là, on est à une autre phase, un autre stade, et il faut pouvoir investir. Et je crois qu'aucun des grands Français actuellement, ni Free, ni SFR, ni Bouygues isolément, et peut-être même pas Orange isolément, ne sont en mesure d'investir suffisamment.
Oui. Roland Quérol.
Moi, c'est les affaires normales du capitalisme, il n'y a pas beaucoup de polémique à faire. Ce n'est pas là l'État régalien qui est concerné, ce sont des stratégies de groupe.
Et en même temps, un peu quand même, puisque c'est l'État qui régule.
Qui donc va d'ailleurs perdre un peu d'action au passage.
Le vrai régulateur dans le monde des télécoms est une autorité indépendante qui s'appelle l'ARCEP. Mmh. Et l'autre régulateur qui va intervenir, c'est l'autorité de la concurrence, voilà. Probablement l'autorité de la concurrence nationale, mais certainement aussi l'autorité de la concurrence européenne. Mmh.
Alors, l'autorité de la concurrence va sûrement obliger les deux réseaux à vendre un certain nombre de leurs acquis.
Notamment à Free.
J'entendais sur les internautes disaient que l'avenir des boutiques, il est clair qu'il n'y aura pas, il n'y a pas de rationalité économique à maintenir ces deux réseaux de boutiques côte à côte et que l'un des deux sera vendu, peut-être d'ailleurs à Free. Donc voilà, tout ça est assez logique dans une démarche capitalistique et je n'en connais pas d'autres dans notre économie. Le problème, c'est de savoir si c'est aussi bon que ce que tout le monde nous dit pour les consommateurs. Et que moi, je veux bien que les marges soient serrées. Il y a des gens qui sont arrivés à montrer qu'avec des marges aussi serrées, on arrivait à faire des prix plus bas. Et ma crainte, là, je rejoins Gérard, ma crainte, c'est que moins de concurrence, ça soit finalement le consommateur qui
mais trinque. Sauf que, là, je comprends Roland Quérol, mais est-ce que finalement le seul critère ne doit pas être simplement le prix ? Peut-être qu'il faut accepter de payer plus cher pour avoir un service concurrentiel et pour, voilà, est-ce que le critère alors, du prix ne doit pas être critère absolu ?
Moi je ne parle pas ici au nom des consommateurs, mais c'est à eux qu'il faut démontrer ça. C'est à eux qu'il faut prouver que si jamais il y a un glissement des prix, ça sera pour avoir un meilleur service, un service plus efficace et des entreprises assurant mieux leur service.
C'est en tout cas ce que dit Stéphane Richard.
Mais ça s'appelle une promesse. Mmh. Le problème est de tenir ses promesses.
Oui, c'est l'ambiguïté de tout ce raisonnement libéral qui est de dire, en écoutant Mme Parizeau, qu'en effet, il faut promouvoir une stratégie industrielle qu'on peut très bien comprendre, mais qu'en même temps, on s'assoit sur les grands principes qui me sont chers d'une concurrence libre et non faussée. Et donc, je vais reprendre ce qui a été dit, mais très rapidement, parce que ce sont les mêmes arguments. Moi, je me mets à la place du consommateur et je crains, en effet, qu'avec cette formation de petit cartel, en tout cas d'un rapprochement, il risque d'y avoir une concurrence faussée et qu'il risque d'y avoir au bout du compte pour les consommateurs.
Il reste quand même trois opérateurs.
Il en reste trois, mais on comprend quand même bien, même sans être un grand économiste, que s'il n'en reste que trois, il en manquera un qui pourra peut-être, qui pouvait être incité à faire baisser les prix. Et donc je pense que l'intérêt du consommateur est toujours d'en avoir beaucoup plus.
Non, mais là on est à front renversé.
C'est même très drôle.
C'est assez étonnant. Mais alors d'abord, pour assumer pleinement mon libéralisme, je voudrais dire que dans l'opération telle qu'elle est décrite, moi, je ne suis pas mécontente que la part de l'État dans le capital de France Télécom, enfin Orange, baisse et qu'il y ait un grand investisseur privé, en l'occurrence Bouygues, qui devient le deuxième actionnaire de cette entité. Je trouve ça assez intéressant.
Mais on peut même se demander qu'est-ce que l'État a à faire là-dedans.
Merci Roland, merci beaucoup de le signaler comme ça.
C'est vrai, oui.
Mais surtout, il faut comprendre que peut-être que vous avez raison, Yvan, dans un premier temps, je ne pense pas qu'on aille vers une nouvelle baisse des forfaits téléphoniques. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas particulièrement intéressant pour les consommateurs. Ça, c'est dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, il faut que tout le monde comprenne que la maintenance et même le développement et l'amélioration d'un service passent par des investissements. Mmh. Et des entreprises qui sont aussi serrées sur leurs marges cessent d'investir. C'est ça l'enjeu aussi aujourd'hui, c'est reprendre les investissements.
Allez, autre sujet, mais on va parler encore de gros sous. Au Royaume-Uni, un patron gagne en deux jours autant qu'un salarié en un an.